Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un élément du paysage urbain français qu'on croit tous connaître, mais qui cache en fait une histoire absolument fascinante. Le kiosque à musique. Pour nous guider, on a un article vraiment passionnant de Gilbert Régour, paru dans le Bulletin du Cartoclub Avronais.
Un article très très riche.
Oui, et notre but, c'est de comprendre pourquoi ces structures ont poussé un peu comme des champignons à la fin du 19e siècle, et on va voir que ce ne sont pas juste de jolies petites scènes, non, non, c'est bien plus que ça. Elles racontent une vraie transformation de la vie en ville.
Oui, il faut vraiment se replonger dans le contexte de l'époque, la belle époque. On est en pleine révolution industrielle, les villes grossissent à une vitesse folle. Et les mairies, les municipalités, elles se posent une nouvelle question. Comment on fait respirer les gens? Comment on leur offre des loisirs?
D'accord.
C'est la naissance des grands jardins publics, des promenades, et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on met? Un kiosque, c'est le symbole d'une nouvelle vie urbaine, tournée vers la culture pour tous.
Et quand on imagine un kiosque de cette période, on a tous un peu la même image en tête, non? Mais si on devait le décrire précisément, c'est quoi les éléments qu'on retrouve tout le temps?
C'est une très bonne question parce que la forme, elle n'est pas du tout laissée au hasard. En général, on part sur un soubassement en pierre, assez haut.
Oui, pour que les musiciens soient bien vus.
Exactement. Et sur cette base très solide, on a une structure très très légère, presque aérienne, des fines colonnes en fonte, très élégantes, qui soutiennent le toit.
Ah, et ce fameux toit en chapeau chinois?
C'est ça, le fameux chapeau chinois.
C'est juste pour faire joli ou ça a une vraie fonction?
Ben, les deux, en fait. L'esthétique, elle est évidente, c'est ce qui donne cette silhouette si reconnaissable. Mais la forme du toit, souvent, elle est doublée par un plafond en bois juste en dessous. Et tout ça, c'est pensé pour l'acoustique, ça agit comme un réflecteur de son pour projeter la musique vers le public.
Ah, d'accord.
Mais la vraie révolution, elle n'est pas tant architecturale, elle est sociale.
C'est-à-dire.
Qui venait écouter ces concerts? Alors, l'article s'appuie sur les travaux d'une historienne, Marie-Claire Mussat. Et c'est passionnant. Elle montre que le kiosque, ça devient le point de ralliement de la petite et moyenne bourgeoisie.
Les fonctionnaires, les commerçants.
Voilà. Les artisans, les fonctionnaires. C'est là qu'on vient se montrer le dimanche, en famille, avec ses plus beaux habits. Mais attention, ce n'est pas un lieu exclusif pour autant. C'est un des rares endroits où il y a une certaine mixité sociale. L'ouvrier en balade croise le notable. Bon, ils ne se mélangent pas forcément, mais ils sont là, ensemble. Ils partagent le même espace, la même musique. Et ça, c'était complètement nouveau.
Et la musique, justement, elle sort des théâtres, des salons privés. D'un coup, elle est accessible à tout le monde, dans la rue.
Les harmonies municipales, les fanfares militaires, elles se multiplient à cette période et elles trouvent là une scène parfaite.
Et on a des chiffres là-dessus, hein.
Ah oui, et ils sont impressionnants. En France, on passe de 2500 sociétés instrumentales en 1875 à presque 10 000 en 1900.
10 000, c'est une explosion.
C'est une explosion, oui. Et pour tous ces musiciens amateurs, jouer au kiosque, en uniforme, c'est une consécration, une vraie reconnaissance sociale.
Donc, si on résume, le kiosque, c'est pas juste un joli décor. C'est un outil politique et social de la Troisième République.
C'est exactement ça. Il ne faut pas être naïf. Derrière le divertissement, il y a un projet. On parle de moralisation par les arts.
Ah oui.
L'idée, c'est d'éduquer le peuple, de l'éloigner un peu des cabarets, de lui offrir une culture saine. Et le kiosque devient aussi la scène des grands rituels républicains.
Le 14 juillet, par exemple.
Le 14 juillet, les remises de prix, on y joue des marches militaires, des hymnes patriotiques. C'est un moyen très efficace pour diffuser les valeurs de la République.
Alors décortiquons ça avec le cadre d'Aisse qui est vraiment au centre de l'article. Au début, en 1882, au jardin public du Foiral, c'est pas grand-chose. Juste une estrade en bois, une plateforme.
C'est ça, pour que les musiciens du régiment puissent jouer, mais la présence militaire devient de plus en plus importante, et en 1892, le colonel du 17e régiment, il en a un peu marre. Il écrit à la mairie, et en gros, il tape du poing sur la table.
Il dit quoi?
Il dit mes musiciens ne peuvent pas jouer correctement sous la pluie ou en plein cagnard. Il faut couvrir cette estrade. Et la municipalité, elle saute sur l'occasion. Le projet devient beaucoup plus ambitieux.
On fait pas juste un toit.
Non, on surélève tout, on met les colonnes en fonte, le toit en zinc, on creuse même un sous-sol pour ranger le matériel. Et le nouveau kiosque est inauguré en grande pompe en 1895.
et il devient tout de suite le centre de la vie sociale. Il y a un détail absolument savoureux dans l'article à ce sujet, à partir de vieilles cartes postales.
Ah oui, c'est un détail formidable. L'article nous montre deux clichés pris le même jour, au même moment. On y voit la foule très dense autour du kiosque pendant un concert, mais...
Mais quand on regarde de plus près...
Les gens au premier rang, ils ne regardent pas du tout les musiciens.
Non, ils fixent le photographe, l'objectif. Ils sont complètement fascinés par cet appareil sur son trépied.
C'est l'ancêtre du selfie en quelque sorte. La vraie attraction, c'est pas le concert, c'est la caméra.
C'est incroyable.
Ça montre à quel point cette technologie de l'image était une nouveauté absolue. C'est une photo de la foule qui regarde le photographe. C'est magnifique.
Et cette foule qui vient régulièrement, ça doit créer des opportunités économiques, non ?
Absolument. Le kiosque à musique, c'est un peu l'encre d'un centre commercial à ciel ouvert de l'époque. Il attire le monde. Et donc, les petits commerces s'installent autour pour en profiter.
C'est de là que viennent les autres kiosques ?
C'est là que le mot kiosque change de sens. Il se met à désigner n'importe quelle petite construction de service. C'est ce que l'article appelle joliment les avatars du kiosque.
Comme les kiosques à journaux. À Rodez, il y en a un sur la place d'Armes, celui de M. Cancé.
Qui devient lui-même éditeur de cartes postales.
Et un autre sur la place du Bourg.
Exactement. Et on a aussi des buvettes, comme le chalet buvette juste à côté du kiosque, et même une bonbonnerie dans le jardin public. C'est tout un écosystème qui se crée.
Rodez, c'est donc une vraie success story. Mais tous les kiosques n'ont pas eu cette chance, n'est-ce pas ? L'article montre des destins beaucoup plus mouvementés.
En effet, on a un peu tous les cas de figure. On a l'exemple idéal, comme à Villefranche-de-Rouergue. Le kiosque de 1889, il est toujours là, sur sa promenade. Il anime encore la ville. C'est le survivant parfait.
Et puis, il y a des histoires plus compliquées.
Oui. Prenez De Casseville. C'est très révélateur. On construit le kiosque en 1910, sur un emplacement de choix, juste en face de l'église, le cœur de la ville.
D'accord.
Mais en 1932, à peine 20 ans plus tard, on décide de le démonter.
Ah bon ? Pour quelle raison ?
Pour le remplacer par un monument aux morts.
Ah oui, quand même.
Le kiosque est reconstruit un peu plus loin, dans le jardin public. C'est un cas d'école du conflit des mémoires. On sort de la Grande Guerre et le besoin de commémoration, de deuil, prend le pas sur le besoin de divertissement.
L'espace de la fête est remplacé par l'espace du souvenir. C'est un symbole très très fort.
Et puis, il y a des histoires encore plus brutales. L'article de Pierre Costecal sur Millau est assez poignant. Là, le kiosque est une victime de la modernité.
C'est-à-dire ?
Il est déplacé une première fois en 1924.
Pour faire de la place ?
Pour un parking.
Pour un parking.
Il survit un temps, un peu plus loin, mais il est finalement détruit quelques années après pour agrandir ce même parking. Fin de l'histoire.
C'est terrible. Ce qui était un lieu pour les piétons, pour la flânerie, est sacrifié sur l'autel de la voiture.
C'est le résumé parfait. C'est le choc de deux visions de la ville. La ville du 19e, pensée pour le promeneur, contre la ville du 20e qui doit s'adapter à l'automobile. Et dans ce combat-là...
Le kiosque ne pouvait pas gagner.
Il n'avait aucune chance.
La plupart des kiosques disparus sont donc tombés dans l'oubli. Mais l'article nous réserve une dernière surprise. Une histoire, mais alors une histoire complètement folle. Il y a un cas où le kiosque n'a pas seulement survécu, il est devenu une icône mondiale, d'une manière totalement inattendue. C'est un encadré signé Guy Mazars qui nous raconte ça.
Oui, alors là, on quitte l'Aveyron, on va à Valence, dans la Drôme, et on bascule dans le conte de fées. On est en 1942, un jeune dessinateur, Raymond Penet, s'assoit sur un banc juste en face du kiosque à musique. Il racontera plus tard qu'il a vu un petit violoniste qui jouait tout seul sur l'estrade. Et il a imaginé une jeune femme, une amoureuse qui l'écoutait. Il fait un dessin de cette scène.
Et ce simple dessin va avoir un destin incroyable.
Un rédacteur en chef parisien tombe dessus, le publie et le rebaptise « Les amoureux de Penet ». Et là, c'est le début d'un succès, mais phénoménal.
C'est fou.
Ces deux petits personnages, le poète musicien et sa fiancée, deviennent un symbole universel de l'amour romantique.
Et on les retrouve partout.
Sur des poupées, des bijoux, des tasses. Ils inspirent même Brassens pour « Les amoureux des bancs publics ».
Absolument.
Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment un objet, un bâtiment, peut être complètement réinterprété. Son sens est transformé par une œuvre d'art.
Le kiosque de Valence n'est plus célèbre pour sa musique.
Plus du tout. Il est devenu éternellement le décor de la naissance de l'amour. C'est un lieu de pèlerinage romantique.
Et le plus dingue, c'est la portée internationale. L'article mentionne qu'il existe aujourd'hui deux musées consacrés à Penet, au Japon et en Mailand.
Oui. Et qu'à Hiroshima, il y a une statue des amoureux juste en face du mémorial de la paix. Le parcours est juste. Vertigineux.
Pour résumer un peu tout ce qu'on a exploré, on peut dire que les kiosques à musique, c'était vraiment bien plus que des ornements. À la belle époque, c'était les cœurs battants des villes.
Des centres névralgiques, oui, pour la vie sociale, culturelle et même économique. Ils incarnaient vraiment les ambitions de toute une société.
Tout à fait.
Et ça nous amène à une dernière pensée, je crois. Gilbert Régour ouvre son article avec un chiffre qui donne un peu le vertige.
Lequel ?
Sur les 4000 kiosques construits en France à cette période, il en reste à peine 350 aujourd'hui.
Si peu.
Ce qui soulève une question, je trouve, qui est essentielle. La prochaine fois qu'on croisera un de ces survivants dans un parc, qu'est-ce qu'on verra ? Juste une jolie structure un peu désuète, un bon décor pour une photo Instagram ? Ou est-ce qu'on verra le fantôme de tout cet écosystème qui a disparu ?
Le son des cuivres, les familles endimanchées.
Les vendeurs de journaux, la fierté d'une ville. Et la question qui suit forcément, c'est par quoi est-ce qu'on a remplacé dans nos villes d'aujourd'hui cette fonction de rassemblement, ce lieu de cohésion sociale que le kiosque remplissait si bien ?